Ils ont quelque chose à dire et bien souvent à écrire sur le monde professionnel et ses évolutions. Ils sont inspirants car ils éclairent le chemin d'un univers de plus en plus complexe, de plus en plus rapide et nous aident à prendre le recul nécessaire pour mieux comprendre les tendances de fond, tenir le cap et progresser. Ils, ce sont les invités d'ASAP, le podcast qui décrypte le monde du travail. Si vous souhaitez améliorer vos prises de parole en public, alors je vous invite vraiment à écouter cet épisode. En effet, mon invitée est Christine Morlet, la première conférencière professionnelle certifiée en France. Et Christine a de multiples activités car elle est spécialiste de l'influence positive et créatrice du premier cursus de formation à la conférence en France. À la fin de l'épisode, Christine va nous en dire plus sur la conférence qu'elle organise le 23 mars à 17h, intitulée « Pourquoi les bonnes oratrices sont-elles inoubliables ?» Il est temps que je me taise et que je laisse la parole à mon invitée.
Je vais faire mon pitch elevator en 7 secondes. Je m'appelle Christine Morlet, je suis conférencière et coach de conférenciers. J'aide les femmes majoritairement en difficulté avec leur discours, leur présentation interne et externe qui se perdent dans leurs notes, à devenir mémorables. Ce qui m'est arrivé le 1er août 2008, c'est que quelques semaines avant, je surfais sur Internet parce que j'avais fait un peu le tour de mon métier. J'étais coach, consultante, j'avais fait plusieurs tours du monde pour enseigner, transmettre les techniques d'influence et notamment la négociation internationale. Après avoir fait le tour de ce métier, eh bien, je cherchais autre chose. Je cherchais un renouveau pour ma vie. Et je tombe sur un article sur Internet qui disait « Il y a des personnes qui partent à New York, à Times Square, pour participer à un des plus grands événements aux États-Unis dans le monde des speakers, qui était la Convention nationale des conférenciers professionnels. » Et je me retrouve dans une salle énorme, je l'explique dans mon livre « La boîte à outils du speaker conférencier chez Duno », je me retrouve donc dans cette immense salle avec 2999 autres speakers ou aspirants speakers ou speakers pro, à écouter des gens fantastiques comme Les Brown, Patricia Fripp, Gene Robertson et des gens comme ça qui, bien sûr, ne vous diront pas grand-chose pour les Français, mais qui sont des icônes du speaking au niveau international. Et là, mon sang ne fait qu'un tour et je me dis, tu sais, comme dans le film de Michael Jackson, « This is it ». C'est ça que je veux faire, quoi. C'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Et j'ai pris la décision à ce moment-là de faire la certification internationale. Donc, ça veut dire 5 ans de conférences sur une période donc de 5 ans, hein, où tu dois avoir totalisé 100 conférences, 625 000 dollars de chiffre d'affaires uniquement en conférences pour un minimum de 20-25 clients qui te donnent tous une note comprise entre 0 et 10. Et si tu n'as pas 7,5, tu es recalé. Et alors, suite à ça, j'ai créé le premier cursus professionnel pour la conférence, c'est-à-dire pour apprendre à prendre la parole, mais pas seulement en conférence, mais aussi faire des présentations internes, des assemblées générales, présenter des appels d'offres, être beaucoup plus visible en interne lorsqu'on présente un projet à un groupe de directeurs, par exemple, et que quand on est femme, on a parfois le syndrome de l'imposteur, on se sent pas légitime. Donc ça a été vraiment un grand moment aussi de pouvoir aller au-delà de ce syndrome, parce que c'est un syndrome que connaissent beaucoup de femmes, dont moi y compris. J'ai pas honte d'en parler, je pense que quand j'étais plus jeune, je souffrais de la même chose. Et donc, après avoir créé ce premier parcours, j'ai cru bon en 2018, donc 2012, j'ai la certification, je crée le parcours et en 2018, sort chez Duno la première boîte à outils consacrée au métier de conférencier speaker.
Qu'est-ce qui différencie les oratrices des orateurs ?
Alors, en quoi est-ce qu'elles se distinguent des hommes ? C'est qu'elles ont cette capacité, alors je ne vais certainement pas me faire des amis parmi les messieurs qui nous écoutent, elles ont cette capacité à intégrer davantage du sang et de l'eau. Tu vois, de la sueur, des histoires personnelles. Alors qu'un garçon, et ça c'est vraiment mon expérience de coach, de conférencier, d'orateur qui parle, a plus de mal à se livrer. Il faut vraiment parfois les pousser un peu pour qu'ils puissent se livrer. Tu vois, j'ai eu l'avantage, j'ai eu le privilège de coacher Virginie Delalande, cette première femme totalement sourde de naissance à avoir eu le diplôme d'avocate, puis à être devenue coach et avoir été parmi les 3 vainqueurs du premier grand oral organisé sur une grande chaîne de télévision telle qu'on connaît. Et elle a même éclipsé le numéro 1, puisque sa vidéo sur les réseaux sociaux a fait plusieurs millions de vues. D'abord, je crois beaucoup aux histoires de vie inspirantes, et ça nous amène au sujet, qu'est-ce qui fait un bon conférencier ? L'idée, c'est d'avoir une histoire de vie à partager. Donc Virginie Delalande, elle avait vraiment une vraie histoire de vie, quelque chose de fantastique. D'ailleurs, son bouquin qui est sorti au mois de novembre l'année dernière, « Abandonné, point d'interrogation, jamais, point d'exclamation ». Typiquement, Virginie, elle avait vraiment quelque chose à dire au monde. Et elle se bat aujourd'hui pour permettre aux personnes en situation de handicap d'arriver à être plus heureuses dans la vie, avoir un mieux-être. Alors, une prise de parole réussie, elle répond, selon moi, à 3 questions. La première question, c'est qu'est-ce que je souhaite que mon public retienne ? Quel est le message clé que je souhaite que mon public retienne ? Car pour un bon orateur, quelle que soit la durée de son intervention, le trop est l'ennemi du bien. Hein ? Quel est le message, the message ? Hein ? Deuxième question, qu'est-ce que je souhaite qu'il ressente ? Qu'est-ce que j'aimerais, avec quel sentiment, avec quel ressenti j'aimerais qu'il parte une fois qu'ils m'ont écouté ? C'est pareil dans un podcast. Hein ? Troisième question, qu'est-ce que je veux qu'il fasse ? C'est quoi l'appel à l'action ? Parce que s'il manque un appel à l'action, eh bien, les gens ne vont rien faire. Le nombre de personnes que j'ai eu à écouter, notamment dans des speed meetings business où les gens venaient récolter des fonds, parler à des fonds d'investissement, etc., où on connaissait tout de leur discours, de leur message, on savait tout, mais ils avaient juste oublié de leur demander de quoi ils avaient besoin et éventuellement du montant de la somme qu'ils allaient leur demander. Et ça, il faut avouer que quand on veut lever des fonds, c'est un peu embêtant. Eh bien, mine de rien, ça va certainement vous faire rire, vous, chers auditeurs, chères auditrices, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que souvent dans les messages, il manque l'appel à l'action. Et c'est pareil pour vous autres qui présentez devant des chefs d'entreprise ou qui présentez devant une assemblée générale de décideurs dans votre entreprise, c'est quoi l'appel à l'action ? Si vous leur présentez un projet, c'est que vous avez une idée derrière. C'est quoi votre intention ? Et ça nous amène à quelque chose d'important aussi, le MOI. Le moi, c'est intéressant parce que c'est facile à mémoriser, le moi. Derrière le M, il y a message, hein, the message, le message clé. Derrière le O, il y a objectif. C'est quoi ton objectif ? Est-ce que tu veux juste les informer ? Est-ce que tu veux les séduire ? Est-ce que tu veux les inspirer ? Ou est-ce que tu veux leur vendre quelque chose ? OK ? Et derrière le I, il y a intention. Et derrière le mot intention, il y a c'est quoi l'humeur ? Que tu mets, c'est quoi la force, la foi que tu vas mettre derrière ton message, Hein, le MOI, c'est vraiment très important aussi ça pour une bonne conférence. Quand on parle à son écran d'ordinateur, on fait exactement comme ce que je fais maintenant, c'est-à-dire qu'on se projette visuellement dans une grande salle de conférence. Moi, ça m'arrive souvent, d'ailleurs, quand je parle à mon écran, de mettre une photo d'une grande salle de conférence dans laquelle je suis intervenue déjà et de me projeter, tu vois, de me projeter avec au moins 3 des 5 sens, tu vois. Tu te projettes dans le visuel, tu regardes les gens, leur tête, leur réaction, hein. Tu te projettes dans la tonalité des applaudissements à la fin de la conf. Tu te projettes dans ce que tu as ressenti, dans les papillons dans le ventre que tu as eu juste avant de monter sur la plateforme, hein. Et ça, c'est énorme. Et bien sûr, pour parler à son écran, il faut apprendre à travailler la variété vocale. Il faut apprendre à faire comme ce que font nos amis British.
How do you do today?
Tu vois, en fait, on est typiquement dans une sorte de tonalité musicale pour que, quelque part, les gens, ils aient vraiment envie de t'écouter, en fait. Tu vois, il faut que ce soit beaucoup plus vivant, beaucoup plus interactif. Hein, alors, avec les différents outils aujourd'hui, dont SparkUpNow, mais il y en a d'autres, on peut faire des choses très interactives. Mais si on a juste Teams ou Zoom, on peut aussi faire des sondages, des questions, on peut faire des sous-groupes, des petites salles, qui permettent à chacun d'exprimer ce qu'il a sur le cœur en direct. Et je crois que c'est très important, ça. Il faut se dire aussi que quand on parle aux gens, on parle à différentes typologies de personnes. Tu vois, on parle à différents types d'écouteurs. Parce que dans un message, il y a un émetteur et un récepteur, donc des écouteurs ou des écouteuses. OK ? Et donc, si tu ne construis pas ton message en tenant compte de ces typologies d'auditoire, eh bien, tu peux te planter. Hein ? Par exemple, si tu mets beaucoup de métaphores dans tes messages, que tu aimes parler en métaphores, que tu aimes plaisanter, eh bien, tu vas être plutôt dans un style d'orateur inspiré, un peu comme l'était Steve Jobs, si on peut se permettre de citer son nom. Hein. Si tu aimes plutôt parler de toi, des petites histoires, du storytelling, des trucs qui te touchent, que tu projettes beaucoup d'images et de photos personnelles, eh bien, tu seras plutôt un orateur sensible, tu vois, qu'on appellera plutôt l'orateur sensible. Si ton discours est rédigé à la virgule près, dans les moindres détails, eh bien, tu seras ce qu'on appelle un orateur ordonné.
Et quel est le quatrième type d'orateur ?
C'est celui qui aime parler d'expert à expert. Tu vois, il va être beaucoup... il va converser, par exemple, en gardant ses distances entre lui et son auditoire. Ses vêtements vont traduire son statut social, tu vois. Et là, on est typiquement dans l'orateur précis. Hein, c'est celui que je vais appeler le précis. Pour ceux qui ont envie de lire mon livre, c'est à la page 42, outil numéro 10, découvrez votre typologie d'orateur. Et là, vous avez même un questionnaire que vous pouvez répondre, remplir, et puis vous pourrez identifier quelle est votre typologie d'orateur à vous. Moi, j'aimais beaucoup les discours de Margaret Thatcher. C'était une femme de tête, une femme de poigne. Globalement, elle embarquait quand même pas mal les gens. Hein. Il y a une autre personnalité publique que j'aime beaucoup et que vous pouvez aller suivre sur les réseaux sociaux qui s'appelle Isabelle Barthes, B-A-R-T-H, qui est une enseignant-chercheure. Elle était, à l'époque où je l'ai rencontrée, elle était... directrice générale de l'école de management de Strasbourg, et elle a fait beaucoup, beaucoup d'autres choses depuis. Allez voir son profil. Elle a écrit au moins une quinzaine de livres, et sa conférence, puisque c'est une spécialiste de la diversité, entre autres, sa conférence commence par « Quoi ma gueule ? Qu'est-ce qu'elle a ma gueule ?» Voilà, donc ça c'est aussi un secret que j'aimerais partager avec vous, c'est l'ouverture. Parce que quand vous ouvrez, d'ailleurs les Américains qui sont formés depuis tout petit, les Anglo-Saxons, hein, même les Allemands, hein, pareil, les Anglo-Saxons, on les mettra dans cette catégorie-là de personnes, ils sont formés tout petits à faire des blagues au début, à faire des petites pirouettes pour, on va dire, être plus à l'aise, pour mettre l'audience, l'auditoire plus à l'aise. Hein, donc typiquement, il faut bien préparer son ouverture, à la fois sur le fond et sur la forme. Hein. Sur le fond, vous pouvez par exemple utiliser une citation, ça passe toujours très bien. Hein, voilà, si vous utilisez une citation qui est en lien bien sûr avec votre message direct, sinon vous tombez à plat. Hein. Si vous utilisez une blague, attention. À ce moment-là, je vous conseille vraiment, sérieusement, là, ce conseil, de la tester devant un auditoire d'amis, avant. Vous pouvez aussi démarrer par une affirmation. Par exemple, dans ma conférence « Pourquoi les bons négociateurs obtiennent-ils tout ce qu'ils désirent ?», je démarre par « 90% des négociateurs échouent. » Pour trois raisons. Un, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Deux, parce qu'ils n'osent pas demander. Trois, parce qu'ils se font un film dans leur tête dans lequel ils sont déjà en échec, parce qu'ils pensent à la place de l'autre, ils pensent que l'autre va dire non, et le non les effraie, du coup, ils ne demandent pas. Et donc ça, c'est l'ouverture de ma conf. Pourquoi les bons négociateurs obtiennent-ils tout ce qu'ils désirent ? Donc vous voyez, c'est vraiment important de soigner votre ouverture. Et aussi, bien sûr, de soigner le plan à l'intérieur, donc l'ouverture, très important. Le plan, généralement, en une partie, si vous n'avez que 10 minutes. Si vous avez 20 minutes, deux parties dans le plan. 30 minutes, 30 à 45 minutes, trois parties. Et, bien sûr, la conclusion qui doit toujours avoir un appel à l'action. On ne naît pas orateur dans le berceau, mais on le devient. Donc, en fait, c'est beaucoup de travail. En référence à mon cher ami Michael Aguilar, que j'adore, qui est le deuxième CSP français, c'est, il l'a eu après moi en 2018, si je ne m'abuse. Moi, je l'ai eu en 2012. Eh bien, il dit il faut 2 heures pour 1 minute de conf. 2 heures de travail pour 1 minute de conf. Ça, c'est pour la partie conférence. Et quand vous intervenez, quand vous faites une présentation en assemblée générale, vous qui nous écoutez et qui êtes des managers ou des chefs d'entreprise, sachez que c'est un enjeu majeur. Imaginez ce qui va se passer dans la tête de vos auditeurs si vous vous loupez, si vous loupez votre message clé, s'ils n'ont pas compris vraiment ce que vous vouliez qu'ils fassent, vous passez à côté de quelque chose d'essentiel, vraiment. D'essentiel. Et c'est pour ça que c'est devenu un enjeu majeur, hein, que vous parliez face à votre ordinateur, devant votre caméra, ou face à une vraie salle. Maintenant, les vraies salles, elles se créent avec les outils, comme j'ai nommé tout à l'heure Spark Up Now, hein, de Vincent Bruno.
Et comment on devient assez légitime ?
Il faut faire grandir sa communauté. Comme tu le fais toi, Alexandre. C'est-à-dire que finalement, tu pourrais aujourd'hui monétiser tes podcasts, certainement un jour tu le feras. Il faut se rendre visible. C'est le phénomène de la notoriété qui va faire qu'un jour, les gens vont commencer à vous appeler pour acheter votre conférence. Moi, j'ai réussi à faire plusieurs tours du monde dans ce domaine, puisque j'ai eu le CSP. Ma carrière, je l'ai plus fait à l'international. Je l'ai surtout fait en Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne. Voilà, j'ai beaucoup voyagé. Et maintenant, ma passion, mais vraiment, c'est de transmettre. C'est vraiment devenu ma passion. D'abord parce que j'ai eu un souci de santé assez important en 2019. Juste avant le premier confinement, j'ai dû attendre pour pouvoir me faire opérer l'ouverture donc, des hôpitaux après le premier confinement. Donc, ça s'est aggravé, ça n'a pas été simple. Donc, j'ai dû remonter la pente, c'est pas évident. Mais du coup, c'est un cadeau parce que ça permet de se dynamiser sur d'autres façons de faire et pour se rendre plus visible. Donc aujourd'hui, il y a de multiples façons de se faire acheter sa conférence. Mais une bonne façon de le faire, c'est de donner du contenu.
Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le 23 mars ?
Je vais donner une conférence sur pourquoi les bonnes oratrices sont-elles inoubliables. Parce que je me suis aperçue que les femmes ont plus de mal, notamment les femmes dans le milieu corporate, hein, qui est le tien, Alexandre aussi, elles ont plus de mal à faire entendre leur voix, elles souffrent plus facilement du syndrome de l'imposteur, elles se sentent moins légitimes. Oser prendre la parole, oser. Parce que j'entends plein de femmes et d'hommes, surtout des femmes, hein, qui n'osent pas prendre la parole, par exemple, sur Clubhouse. J'entends plein de femmes qui n'osent pas, et d'hommes aussi, qui n'osent pas se faire entendre dans leurs présentations, dans les assemblées générales, qui préfèrent laisser la place à Pierre, Paul ou Jacques, plutôt que finalement de prendre le crachoir. Donc en fait, le dernier message que j'aimerais vous faire passer, c'est oser. Oser.
Je remercie Christine d'avoir accepté mon invitation. Vous retrouverez le lien pour accéder à la conférence du 23 mars dans la description de cet épisode. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro d'ASAP.